France Culture. Titrisation, voilà un mot lourdement connoté auquel nous nous attaquons pourtant aujourd'hui, à la fois synonyme d'une technicité et surtout d'une opacité savamment entretenue. La titrisation porte en elle les échos de la crise de 2007-2008 qui déferle sur les États-Unis, emportant dans son sillage toutes les économies systématiquement concernées à travers le monde. Et pourtant, voilà que le terme refait surface alors que l'Union européenne s'interroge sur la façon dont elle pourrait financer l'investissement et l'innovation, ambition cristallisée dans le rapport de Mario Draghi rendu public en septembre dernier, et cela devient de plus en plus concret. Hier, la commissaire européenne aux services financiers, Maria Luisa Albuquerque, a présenté ses propositions pour favoriser la relance de ce marché. Le but, financer ménages et entreprises. Le moyen, alléger les réglementations existantes mises en place dans le sillage, justement, de la crise financière au début des années 2010, considérées aujourd'hui comme des fardeaux excessifs. Et je cite là la commissaire concernée, c'est tout l'enjeu de la libération des capitaux. Alors comment un montage financier complexe dont on a identifié les inconvénients en payant le prix en est-il venu à incarner cette promesse? Les crises justement qui découlent de cet empilement de produits financiers censés mieux répartir les risques sont-elles une dérive, un effet de bord de l'outil dès lors qu'il est mal maîtrisé, mal contrôlé, ou bien relève-t-il de la nature même de la titrisation? Qu'est-ce qui a poussé les acteurs financiers à concevoir ces mécanismes et comment offres et demandes sont-ils nés? De quel besoin? Retour en une heure sur un outil financier hautement controversé et qui n'a pas fini de l'être dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Le Floch et Noémie Niard et mise en onde aujourd'hui par Timothée Hubert. Et avec nous, pour revenir sur les mécanismes et l'évolution de la titrisation, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Ligonnière. Vous êtes économiste, professeur associé à l'Université d'Evry Paris-Saclay, responsable du Master Finance, justement, à Paris-Saclay. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de m'inviter.
Également avec nous et à distance, Pierre-Nicolas Réau. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université de Limoges et à l'IUT du Limousin de Brive et membre du LAP, le Laboratoire d'Analyse et de Prospective Économique. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci de même pour l'invitation.
Samuel Ligonnière, il est des mots dans ce dictionnaire de l'écho que nous ouvrons tous les mercredis qu'il nous faut définir d'entrée de jeu. La titrisation est de cela. Alors en quoi consiste ce mécanisme financier au juste?
Alors si on est au plus simple possible, ce qu'est la titrisation, c'est le fait de, par définition, titriser un actif. C'est quelque chose qui peut paraître compliqué, mais en somme, c'est comme si votre banque vous prêtait de l'argent, vous prêtez 200 000 euros, 300 000 euros, et vous avez ce prêt sur 25 ans, et la banque s'engage donc avec vous pendant 25 ans. Le fait est que peut-être que cette banque a mal mesuré le risque, peut-être qu'elle veut davantage de liquidités à un moment, peut-être tout simplement qu'elle veut complètement changer de stratégie. Eh bien, normalement, si elle reste juste avec ce prêt qu'elle vous a fourni, il ne peut rien se passer, elle le garde. Et le but de la titrisation, c'est de transformer cela en titre. Donc ce prêt, elle peut le vendre, entre guillemets, à n'importe qui. Ça, c'est le premier principe de la titrisation, c'est de faire en sorte que ça devienne un titre qui soit négociable sur le marché. Et généralement, la titrisation, c'est un effet de masse. C'est le fait que ce n'est pas un prêt, ce n'est pas 10 prêts, mais c'est des milliers de prêts, que ce soit des prêts hypothécaires ou d'autres types d'autres titres, par exemple des prêts aux entreprises ou autres. Et derrière, avec ces 1000 ou 2000 prêts, eh bien, en fait, on en fait un titre, j'entrerai pas dans les détails techniques, mais on en fait un titre, et ces titres-là vont être proposés aux investisseurs, ils vont être hachés par des investisseurs, et les investisseurs derrière vont faire un peu ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent plutôt du rendement modulo du risque? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de relativement peu risqué, donc avec peu de rendement? Mais en tout cas, le but de la titrisation, c'est de donner des marges de manœuvre, donc pour libérer de la trésorerie pour les banques, de laisser des marges de manœuvre, et surtout derrière, de proposer à des investisseurs des nouveaux titres qui correspondent mieux à leurs besoins. Est-ce que pour des capital risqueurs, est-ce que pour des grandes fortunes, que sais-je, nous avons besoin de rendement? Nous avons besoin de peu de rendement, mais de sécurité? Est-ce qu'on a besoin de liquidité? Bref, la titrisation, à l'origine, est là pour ça.
On le comprend, le mécanisme clé, hein, c'est celui de transformer en titre, d'où le mot de titrisation. On voit le lien assez direct. Pierre-Nicolas Réaud, une question se pose. À partir du moment où on parle de transformer quelque chose en titre, il y a cette question de savoir pourquoi, initialement, ce qui va être transformé en titre ne l'était pas. Pourquoi on parle de créances illiquides, celles qui sont donc transformées par la titrisation. De quoi parle-t-on là au juste? Pourquoi qu'est-ce qui fait le caractère illiquide justement d'une créance, pour qu'on comprenne bien?
Alors le caractère illiquide de la créance, en fait, il provient tout simplement de la spécificité en elle-même de la créance. C'est-à-dire qu'un globalement, aujourd'hui, l'entité la plus à même de faire un crédit est une entité qui est capable de connaître à minima la personne ou l'entité qui emprunte pour pouvoir lui proposer globalement le produit le plus adapté et évalue au mieux le risque. Donc quand on a une créance, en fait, une banque va avoir une créance par exemple à son bilan, elle est forcément illiquide parce que c'est la banque qui détient de l'information dessus, et donc c'est une créance qui est relativement opaque. Donc au moment où on va essayer de la revendre, pour les investisseurs, on a du mal en fait à avoir finalement une évaluation fiable de la qualité de la créance et donc du risque qui est pris en la rachetant. Donc à partir du moment où elle est relativement illiquide, elle est difficile à vendre, et donc si elle est vendue, elle risque d'être vendue avec une décote.
Pierre-Nicolas Réaud, une petite parenthèse, parce que c'est un point très important sur lequel il faut insister là. Quand vous dites que c'est un mécanisme relativement opaque parce que c'est la banque qui a l'information, vous voulez dire que quand ces créances illiquides sont transformées en titres, la banque n'est pas tenue de transmettre en même temps toutes les informations qui vont avec celles et ceux qui ont contracté ce prêt, qui ont contracté cette créance-là?
Alors, dans le cadre de la titrisation, elle est censée continuer ce qu'on appelle la surveillance. C'est-à-dire que dans un mécanisme de crédit simple, on a ce qu'on appelle finalement le screening, ce qui va dire qu'il y a l'étape en fait où on étudie le dossier, l'octroi et le suivi de la créance. C'est-à-dire qu'on s'assure au fur et à mesure que la créance va être remboursée, et on continue à créer de l'information financière sur la personne qui a emprunté. Et théoriquement, normalement, lorsqu'une banque va céder dans le cadre de la titrisation ces titres-là, elle est censée continuer son rôle de suivi. Donc elle est censée s'occuper dans l'arrangement de ce suivi d'informations. Mais l'investisseur en lui-même n'avait en tout cas pas forcément d'informations avant très récemment. Il n'y avait pas de reporting qui était fait pour les investisseurs.
Une question importante, Samuel Ligonnière. Dans quelle mesure ces fameux titres auparavant illiquides l'étaient pour une bonne raison? Initialement, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement ces créances illiquides et pourquoi elles ne sont pas considérées comme des titres dans un premier temps?
Tout simplement parce que quand on vous... encore une fois, si je reprends l'histoire du crédit immobilier avec la crise de 2008, c'est des prêts immobiliers. C'est des prêts immobiliers aux ménages, à des ménages pauvres, à des ménages de classe moyenne et autres. Et de fait, quand on donne tout ce prêt, eh bien, c'est par nature juste une relation que vous avez de banque à ménage, une relation que vous avez entre une banque et une firme. Donc de fait, c'est pas forcément quelque chose qui va être émis sur les marchés obligataires. Une obligation, c'est LVMH qui émet une obligation qui dit « je veux obtenir 1 milliard d'euros pour pouvoir me financer tel ou tel projet ». Et donc là où ils vont directement sur les marchés internationaux ou marchés nationaux, les marchés, donc on parle de finance des intermédiaires ou intermédiaires, là le fait c'est de passer de la finance intermédiaire à la finance des intermédiaires. Et même si on veut revenir également sur votre autre question sur le rôle des banques, les banques ce sont des gestionnaires du risque. C'est les banques qui doivent décider si oui ou non on fait des crédits à tel ou tel ménage. C'est les banques qui doivent gérer ce risque et qui sont censées donc donner l'information. Et derrière, dès lors que ça devient des titres, dès lors que ça passe par tel ou tel investisseur, tel ou tel fonds, et bien derrière vous avez aussi le rôle des agences de notation. Donc vous avez le rôle des agences de notation qui sont censées donner une information à tout le monde, parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des titres sur le marché, on ne connaît pas l'ensemble des systèmes. Donc vous avez d'un côté la banque qui fait son package, vous avez l'agence de notation qui donne une note, et troisièmement vous avez le régulateur sur lequel, la règle pour les régulateurs c'est ça, c'est que ça va être, c'est la règle du STS, la titrisation ça doit être simple, transparente et standardisée.
Ça, c'est ce qui a été mis en place
en 2019. C'est ce qui a été mis en place depuis 2010. Mais oui, c'est dans l'esprit, vous avez ces trois aspects-là par rapport à la gestion du risque.
Donc on le comprend.
Théoriquement, on gère le risque.
Et ce sont les agences de notation qui centralisent peut-être aussi l'information en donnant un indice de performance aussi, du niveau de confiance qu'on peut avoir dans telle ou telle banque. Pierre-Nicolas Réaud, pour qu'on comprenne bien, encore une fois, on a parlé d'un certain nombre de titres qui étaient concernés, de certains nombres d'actifs. On a parlé notamment des prêts immobiliers. Est-ce qu'il y a des critères selon lesquels les les banques peuvent choisir ce dont elles veulent se débarrasser, entre guillemets, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit. Est-ce que c'est uniquement ce critère de l'illiquidité, comme on disait? Comment les banques font pour sélectionner finalement ce qui va partir dans les paquets qu'elles vont constituer?
Virtuellement, n'importe quel actif qui va présenter un revenu peut être titrisé. C'est-à-dire qu'on a des pratiques qui sont assez différentes aux États-Unis et en Europe. Par exemple, aux États-Unis, il va y avoir beaucoup de titrisations qui vont être liées aux dettes de cartes de crédit, qui vont être liées aux dettes étudiantes, par exemple. Donc en fait, ça dépend vraiment notamment des cultures et des zones géographiques. Et on va avoir globalement une très grande variété de produits qui peuvent servir de support. Les banques, en fait, ont tendance à plutôt partir sur des créances, tout simplement parce qu'en fait, ça leur permet notamment d'alléger leurs besoins en capital. Mais là, on commence déjà à rentrer dans un point un peu technique, mais il y a un avantage à essayer d'expurger certaines créances de son bilan pour avoir des fonds disponibles pour faire d'autres crédits à d'autres particuliers, d'autres entreprises, etc., etc.
Pierre-Nicolas Réau, je poursuis sur cette idée de bien comprendre qui est concerné et quels sont les acteurs en place. On l'a dit, tout part des banques, hein, ce sont elles qui choisissent finalement ce dont elles veulent se débarrasser grâce à la titrisation. Vous avez commencé à l'aborder en disant tout simplement que ça leur permet d'alléger leur bilan, de quelque part créer de la liquidité, en tout cas de se débarrasser d'une forme de poids aussi en termes de bilan. Est-ce là un avantage finalement qui a été identifié tôt? Est-ce que c'est pour cette raison-là, initialement, qu'est mis en place ce mécanisme de la titrisation?
Dans la période moderne, oui. C'est-à-dire que la vraie approche de la titrisation moderne, on la retrouve aux États-Unis au niveau des années 70, et c'est vraiment en fait une suite qui est à peu près logique de la Grande Dépression, où on a vraiment une des contraintes sur le marché du crédit. Il n'y a pas assez de crédit disponible, notamment sur le secteur immobilier. Et la titrisation, en fait, va permettre notamment d'alléger les bilans des banques, ce qui va permettre de libérer des fonds qui sont disponibles pour faire d'autres crédits. C'est-à-dire qu'en sortant des banques les crédits, ça permet de faire d'autres crédits et donc de financer beaucoup plus, finalement, l'économie réelle.
Mais Pierre-Nicolas Réau, ça pose une question assez fondamentale, qui est de se dire, voilà, c'est aux banques de prêter de l'argent, d'accorder des crédits. Il y a forcément une raison à cela. Ce sont aussi des acteurs de confiance. Ce sont elles qui, encore une fois, ont la main sur l'information. Pour quelle raison, finalement, ce sont aux banques qu'on a confié initialement ce rôle de prêteur et non pas à des acteurs financiers autres, qui sont ceux qui vont finir par racheter finalement ces produits rendus liquides? Mais pourquoi il faut revenir finalement à la fonction même des banques pour comprendre pourquoi aussi il y a eu ce besoin de titrisation?
Effectivement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on faisait un petit distinguo entre la finance intermédiaire et la finance désintermédiaire. Pour faire simple, quand on est sur de la finance intermédiaire, ça veut dire qu'entre ceux qui ont un besoin de financement, donc ceux qui veulent emprunter, ceux qui ont une capacité de financement, ceux qui ont une épargne, il y a un intermédiaire qui permet de faire la relation entre les deux. C'est exactement le rôle de la banque. Et dans la littérature et globalement dans l'histoire économique, on a identifié la banque comme étant la forme organisationnelle la plus pertinente et la plus performante pour le faire. Il y a beaucoup de risques, en fait, à mener l'activité de crédit. C'est-à-dire qu'il y a une triple transformation. Il y a une triple transformation de maturité, de liquidité et de qualité. Si on résume très simplement, une banque va collecter auprès de ses clients des dépôts à vue. Donc ça, c'est nos comptes bancaires courants, qui va permettre, en fait, ce qui sont de court terme et qu'on peut retirer à n'importe quel instant. Et avec ça, elle va financer des crédits qui sont donc à long terme. Donc elle s'engage sur des durées de 20 à 25 ans, alors que les fonds qui sont en face, finalement, peuvent être retirés quasiment instantanément. Elle s'engage à rembourser, quelle que soit la situation, les dépôts, alors que les crédits, eux, peuvent faire défaut. Donc là, on est déjà sur deux des trois transformations. Et globalement, la liquidité, on l'a aussi évoqué. Donc il y a cette triple transformation-là, en fait, qui est menée. Et la banque est considérée comme étant l'entité la plus à même de le faire parce qu'elle concentre l'ensemble de l'activité. Elle est capable de déterminer si quelqu'un qui va emprunter est de bonne ou mauvaise qualité. Elle est capable de suivre l'évolution des remboursements, de suivre l'évolution du crédit. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, parce qu'en tête, on a finalement que le système bancaire, à part 2007-2008, on a une relative stabilité dans l'histoire récente. En tout cas, pour quand on regarde en fait un petit peu d'un œil extérieur. Mais si on remonte 100-150 ans en arrière, les banques faisaient défaut régulièrement, notamment aux États-Unis. On a eu des périodes très noires pour le système bancaire. Et c'est comme on a déterminé qu'elles étaient nécessaires et qu'elles étaient adaptées à faire du crédit, qu'elles ont obtenu un certain nombre de protections. Le prêteur en dernier ressort, l'assurance dépôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est couvert sur l'ensemble de nos dépôts à vue si la banque n'est pas capable de nous rembourser. Donc vraiment, le crédit, ça a été quelque chose qui a été sacralisé au niveau de la banque. simplement parce que ça a été considéré comme la forme la plus optimale pour le faire.
Mais ça, c'est extrêmement...
Donc, le fait que les crédits sortent des banques, finalement, c'est assez incongru par rapport à ça.
Ah ben, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Et Samuel Ligonien, on pourrait se dire que ce transfert, à partir du moment où on a compris que c'est une forme de transfert de risque qui pourrait être résumé à travers le mot de titrisation, on pourrait se dire que c'est aussi une délégation du rôle des banques en tant qu'institution capable de prendre ce risque, ce qui fait la base de la confiance du système financier. Le fait même de vouloir se débarrasser de ce risque-là... qu'elles sont censées pouvoir gérer, n'est-il pas un dysfonctionnement en soi? Si les banques ont besoin de se débarrasser de créances pour pouvoir fonctionner, on pourrait presque se dire qu'il y a une forme de déni de réalité aussi.
Alors, pas forcément, dans la mesure où vous avez d'un côté la finance des intermédiaires qui va répondre aux besoins de telle ou telle firme, ou par exemple de tel ou tel État. On peut prêter à l'État français, tout le monde connaîtra la qualité de l'État français, tout le monde connaîtra la qualité de l'État allemand, alors que pour un petit ménage ou pour une petite firme, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc il y a un peu un partage des tâches entre désintermédiation et intermédiation, et surtout, il y a des évolutions, il y a des ajustements dans le risque. Par exemple, moi je prendrais l'exemple de... Vous avez BNP Paribas. BNP Paribas qui a fait la titrisation récemment par rapport à des infrastructures vertes, qui pendant très longtemps... Elle a gardé ça dans ses comptes, elle a gardé ça dans son bilan. Et il y a un moment où ils ont jugé que peut-être les risques de crédit face à ces infrastructures vertes étaient peut-être trop importants. Et donc, pour leur vision, ils se sont dit, on va titriser cela. Il y a un fonds de pension qui a accepté ce risque. Et donc, elle a voulu retirer tel ou tel risque. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un changement de vision, peut-être parce qu'il y a un changement de climat, sans mauvais jeu de mots avec l'environnement international, peut-être parce qu'il y a d'autres priorités, peut-être parce que la banque veut changer. Donc en fait, c'est donner de la flexibilité. La titrisation, en somme, c'est donner également de la flexibilité. C'est pas forcément juste un déni de réalité. C'est pas un déni de réalité. Si vous choisissez de titriser, c'est aussi que vous choisissez d'évoluer. C'est un peu comme si on disait à un ménage, bon, vous avez pris ce crédit à 25 ans, ah non, vous restez avec ce crédit de 25 ans, vous ne cherchez pas à le moduler, vous ne cherchez pas à faire un nouveau crédit, vous ne cherchez pas à le racheter. Donc, la titrisation, en soi, c'est un outil supplémentaire pour donner de la flexibilité et pour également voir de la gestion de risque et donner de nouvelles perspectives aux investisseurs qui, eux, peut-être, vont mieux apprécier ce risque.
Mais alors là, je reviens à un principe finalement assez simple, c'est tout le concept de ne pas pouvoir prêter plus que ce qu'on a dans l'absolu, qui consiste finalement aussi à un mécanisme de stabilité. Pierre-Nicolas Réau, vous souhaitiez réagir sur ce qui était en train d'être dit, et puis moi je relance la question. Certes, il y a une partie des liquidités qui est coincée, entre guillemets, par les prêts qui ont été octroyés, mais encore une fois, c'est peut-être pour de bonnes raisons, c'est toute l'idée de ne pas prêter plus que les banques ne sont en capacité de le faire, et qu'en se débarrassant de ces créances, elles s'émancipent aussi de leur rôle qui est de faire attention à qui emprunte et pour quelle raison?
Oui, c'était juste un petit complément rapide sur ce qui venait d'être dit. C'est faut pas avoir non plus l'image du fait que la titrisation, ce serait seulement pour se débarrasser des risques les plus importants. Mmh. C'est-à-dire que peuvent être titrisées des choses tout à fait sûres. Dans l'idée aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme c'était expliqué, c'est vraiment un outil de flexibilité. On peut titriser des créances de très bonne qualité, on peut titriser des créances de moins bonne qualité ou celles où on a des projections qui sont moins bonnes. Mais si on regarde bien, la titrisation... C'est un jeu à plusieurs périodes, c'est-à-dire que si on ne fait que titriser des choses de très mauvaise qualité, ça marche une fois, ça ne marchera pas deux. On peut tromper le marché une fois, on ne peut pas le tromper deux fois de suite. Donc il faut garder ça aussi en tête.
Samuel Ligonnière, moi je reviens sur ce que vous disiez, notamment sur la titrisation qui a permis des investissements verts. Alors c'est une question très vaste qu'on abordera plus en détail un peu plus tard, mais tout de même on sent que le flou, il y a une forme de flou, il y a cette idée de cette délégation du risque, cette idée de vouloir libérer finalement des lignes de liquidité possibles pour les accorder sous forme de prêts, mais encore une fois on n'a pas, ça reste compliqué de comprendre pour quelles raisons les banques le font. Est-ce que c'est pour des raisons effectivement de prendre moins de risques et donc de pouvoir prêter à encore un plus grand nombre? Est-ce que c'est pour des questions de rentabilité? Parce qu'on pourrait se dire investir pour la transition écologique c'est une bonne chose. Visiblement, il y a eu une évaluation selon laquelle c'était risqué. On pourrait se dire que les actifs échoués, aussi liés aux énergies fossiles, sont risqués. Et on pourrait se dire que tout est risqué dans ce cas. Et c'est compliqué de comprendre pourquoi chercher à titriser certains actifs plutôt que d'autres.
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est par rapport à ce que je vous disais sur cette histoire de gestion de risque évolutif. Le deuxième point, c'est aussi de bien voir que si on limite la banque à uniquement avoir ses crédits, évidemment, on cherche à contrôler le risque. Évidemment, on cherche à ce que la banque ne prête pas trop d'argent ou ne prête pas à n'importe qui, évidemment. Mais sans la titrisation, ça veut bien dire que vous ne démultipliez pas le pouvoir de la banque de pouvoir fournir de nouveaux crédits à l'économie. Donc, de fait, c'est simplement aussi un moyen de pouvoir proposer des crédits à des ménages. Et encore une fois, il faut se souvenir de ce que c'est les crédits titrisés dans les subprimes. Les crédits titrisés dans les subprimes, c'est dans les années 2000, c'est la possibilité pour les classes populaires américaines de devenir propriétaires. Donc, de fait, sans la titrisation et sans le comportement des banques, est-ce que vraiment il y aurait eu autant de crédits octroyés pour ces ménages? De la même manière, est-ce que sans la titrisation, il y aurait autant de crédits aujourd'hui sur le vert? Est-ce que le vert, sur le développement durable, est-ce que les banques peuvent être les seules à pouvoir vraiment apprécier le risque environnemental? Donc, mon point n'est pas d'être forcément pro ou anti-titrisation. Mon point, c'est simplement que c'est un moyen de démultiplier les capacités de prêt via cette titrisation possible, et donc qui va permettre à des investisseurs, ici, de pouvoir toucher, ici, des infrastructures. Sur le vert, ici, si on reste uniquement sur des marchés obligataires, ça voudrait dire qu'on aurait des prêts pour les investissements verts uniquement pour les grandes firmes. Là, ici, avec la titrisation, selon la Commission européenne, vous auriez donc cet aspect-là qui veut dire, même pour les petits projets verts, sur lesquels les banques pourraient rechigner à prêter de l'argent, parce que, quelle est la transition écologique? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir la transition écologique? Est-ce que cette petite firme mériterait de vivre ou non, entre guillemets? La titrisation pourrait vous aider.
Mais un autre outil qui pourrait aider aussi, Samuel Ligonnière, on ne va pas refaire tous les débats, mais c'est justement de se dire si on avait d'autres critères d'évaluation du risque, plutôt que d'en prendre de nouveau en étendant le nombre d'acteurs financiers capables de prendre ce risque, pourquoi tout simplement ne pas dire aux banques hiérarchiser différemment, évaluer le risque différemment et accorder les crédits en fonction de cela?
Alors, pour le coup, il faut se rappeler que la banque, elle gère énormément de risques différents. Et quand il s'agit d'un crédit au ménage, c'est relativement simple. Pour des crédits à certains secteurs d'entreprise, c'est relativement simple. Quand vous recherchez certains secteurs innovants, c'est beaucoup plus compliqué de savoir si oui ou non l'entreprise va pouvoir vous rembourser. Quand on est sur tel ou tel domaine d'activité, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la diversification. Le but d'une banque, c'est de diversifier ses activités et donc elle va avoir un historique d'informations. Plus elle diversifie ses activités, plus elle a des crédits un peu tout azimut, plus elle peut titriser et autres, plus elle a d'informations, plus elle se diversifie, bien plus elle va avoir une connaissance et plus elle va être à même de gérer le risque. Donc derrière, à la limite, quitte à démultiplier les activités, il y a cet aspect-là quand même d'information qui est important. D'une part, et d'autre part, si elle titrise, ça permet également d'éviter que telle ou telle banque concentre l'intégralité des risques, ce qui a posé problème notamment en 2008, parce que la titrisation a fait qu'au final, on s'est retrouvé avec une concentration des risques. Mais théoriquement, avec la titrisation, vous diversifiez le risque en permettant à la banque d'avoir le plus d'activités possible, plus de diversification possible, plus d'historique possible, et également aussi d'une possibilité pour des investisseurs de pouvoir prendre ce risque plutôt qu'il soit concentré dans la banque.
Pierre-Nicolas Réau, pour bien comprendre finalement cette idée de diversification et c'est à la fois en termes d'actifs mais aussi en termes d'acteurs qui prennent en charge ce risque-là, on est bien d'accord que ce que permet la titrisation, ce n'est pas de faire disparaître le risque. En somme, si je le résume très grossièrement, c'est tout simplement de le refiler à quelqu'un d'autre. Alors, pas forcément le mettre sous le tapis, tout dépend des mécanismes de contrôle qui existent, on va y revenir. Mais c'est plutôt une délégation du risque plus que sa prise en charge réelle et sa disparition effective.
Complètement. Et même pour rebondir sur les points précédents qui sont en lien, c'est-à-dire que pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé à pourquoi il y a une offre de titrisation, pourquoi les banques titrisent.
J'allais venir,
on en a parlé, ça élargit notamment la capacité finalement à récupérer de l'épargne qui n'était pas forcément dédiée à l'économie réelle initialement. En titrisant, ça permet en fait d'attirer des investisseurs qui ne sont pas les banques. Si effectivement on bloque les banques à conserver uniquement les crédits et qu'elles n'arrivent pas à les renouveler suffisamment et qu'elles sont les seules finalement à financer, on se coupe de toute une partie donc de l'épargne disponible mondiale qui peut financer. Et il y a aussi une demande de la part des investisseurs. C'est-à-dire que sur le marché, il y a une forte demande pour des titres, notamment des titres qui soient bien évalués de qualité, parce qu'il y a des besoins pour investir. Donc la titrisation, elle répond à la fois à une volonté de la banque forcément de libérer son bilan, mais elle répond aussi à une demande de l'autre côté. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ce point-là.
Alors, abordons-le, si vous le voulez bien, Pierre-Nicolas Réau. On a dit qu'effectivement, il y avait une demande. On a parlé d'acteurs financiers. Alors, c'est très large et très flou à la fois. Très concrètement, qui est preneur? Parce qu'on pourrait se dire assez spontanément, assez intuitivement, qui a envie de se lancer sur des actifs extrêmement risqués, dont le risque est clairement assumé, puisque justement, les banques cherchent à le répartir ailleurs. Qui a envie de se lancer là-dedans?
En fait, il y a tous les profils. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils qui vont être des fonds, qui peuvent être des fonds d'assurance vie, qui peuvent être des fonds d'investissement un peu plus agressifs. C'est-à-dire des gens qui cherchent à prendre beaucoup plus de risques pour beaucoup plus de rémunération. Parce qu'on n'a pas encore abordé le fait que dans la titrisation, il peut y avoir une hiérarchisation du couple rendement-risque. Pour simplifier, c'est sur les titres qui sont émis, on choisit soit un titre qui rémunère peu, mais pour lequel on prend très peu de risques, soit un titre qui rémunère beaucoup, pour lequel on prend beaucoup de risques. Ça permet en fait de répondre justement à cette demande-là des différents profils d'investisseurs. Quand on l'explique notamment à nos étudiants, on explique qu'il y a des gens qui sont riscophiles, qui cherchent du risque, des riscophobes, qui ont peur du risque, et des neutres au risque. Et donc globalement, le fait de pouvoir hiérarchiser la rémunération et le risque quand on investit sur un produit titrisé permet de répondre à une très grande gamme d'investisseurs. Donc on pourra en citer tout un tas. Mais l'idée, c'est de comprendre en fait que ça peut s'adresser à plus ou moins tous les acteurs financiers, finalement, d'acheter des produits titrisés. Et dans certains cas, c'est des produits qui ont quasiment aucune chance de faire défaut.
Samuel Ligonnière, à partir du moment où il y a une très grande diversité d'acteurs financiers concernés, j'ai une première question qui est de savoir si les banques elles-mêmes finalement achètent potentiellement ces produits titrisés. Vous me faites oui de la tête, donc on va retenir cette information parce qu'elle va nous servir plus tard. Et puis il y a un autre acteur qu'on n'a pas encore nécessairement bien cité, bien ciblé aussi, c'est le fait qu'il y ait une forme d'intermédiaire aussi. Lorsque les banques décident de céder ces actifs-là et d'en faire des titres, elles le font aussi en passant par un acteur très spécifique qui sont des véhicules aussi spécifiques. Ce sont les Special Purpose Vehicles qui sont chargés de faire cette transformation, cette chimie-là aussi financière. Ces acteurs-là, ce sont des acteurs qui sont sous le contrôle des banques. Quel est leur rôle précisément?
Alors, pour les SPV, ça peut clairement être des entreprises complètement juridiquement séparées. Ça peut être des investisseurs autres. Tout le monde, modulo réglementation, pourrait réussir à faire ce genre de titrisation. Et donc, c'est un vrai métier comme les autres. Donc, en soi, les investisseurs du côté de la demande, ici, ça peut être des banques, ça peut être des investisseurs, ça peut être des fonds de pension, ça peut être des fonds pour la retraite. Enfin, vous voyez, tout le monde peut acheter ces fonds. Et donc, de fait, le processus de titrisation, ici, c'est un processus qui permet d'avoir un certain nombre de fonds et qui, surtout dans le cas américain avec les agences gouvernementales américaines, eh bien, il y a un soutien de la part de l'État américain, des agences gouvernementales américaines par rapport à ces prêts hypothécaires. Ces prêts hypothécaires, après, donc les banques prêtent énormément de prêts immobiliers auprès des ménages américains. Derrière, cela passe par des agences américaines spécialisées pour faire cette titrisation. Et après, derrière, ces éléments, ce qu'on appelle les MBS derrière, sont vendus aux investisseurs. Ces investisseurs derrière, c'est ce que vous pouvez retrouver dans votre assurance vie, c'est ce que vous pouvez retrouver dans tel ou tel placement. Et derrière, eh bien, ça vous donne un certain niveau de rendement et de risque, comme mon collègue vous l'a dit. Et de fait, ça va permettre d'avoir, avec la garantie implicite de l'État, derrière, cette sécurité derrière de l'État, derrière, de pouvoir reproposer à d'autres acteurs. Et dans le même temps, que font les banques? Les banques reproposent des prêts. Donc vous avez ici toute une institutionnalisation financière qui n'est pas seulement, c'est pas manichéen, c'est pas le privé d'un côté et le public de l'autre. Et en particulier aux États-Unis, où justement vous avez ces agences Fannie Mae et Freddie Mac qui gère justement ces MBS, qui gère ce phénomène de titrisation.
Et on a là, quelque part, le quatrième acteur, qui est effectivement l'État, le rôle des gouvernements aussi dans la supervision, mais aussi dans la mise en place, effectivement, d'institutions qui sont spécialisées aussi dans cette titrisation, dans cette répartition du risque financier. Et là, on arrive à un point très intéressant, Pierre-Nicolas Réau, c'est qu'effectivement, la titrisation est très associée au système américain, notamment en raison de l'existence de ces government-sponsored enterprises, les fameux GSE, qui naissent pour la première au début des années 30. Est-ce qu'on se fourvoie en faisant de la titrisation un mécanisme très américain? Est-ce qu'on peut trouver finalement cette idée de la part des banques de vouloir céder une partie de leurs actifs encore plus anciennement ancrée dans l'histoire?
Alors, pour ce qui est des banques, pas vraiment, parce que finalement, la titrisation moderne, comme on la connaît, c'est la réplication pure et simple du modèle des GSE. Sauf que, effectivement, comme mon collègue l'expliquait, les GSE, il y a cette garantie qui est sous-entendue comme implicite de la part de l'État. Pour faire un rapide retour en arrière, les GSE sont avant tout donc des entités qui sont initialement publiques et qui très rapidement vont être privatisées. Parce qu'en fait, les garanties qu'elles accordaient sur les crédits, parce qu'en fait c'était ça, des crédits immobiliers, qui allaient être finalement titrisés, qui allaient pouvoir garantir, donc ça rassurait les investisseurs pour les acheter, parce qu'en cas de problème, on savait que l'État fédéral pouvait éventuellement venir aider. Et très rapidement, elles vont être privatisées pour éviter en fait que ça vienne faire grossir les engagements de l'État fédéral. Donc d'une garantie explicite, on est passé à une garantie implicite. On pense que l'État fédéral peut intervenir. Ce modèle-là, c'est le modèle qu'on a retrouvé répliqué dans le secteur privé quasiment à 100%, avec une degré de technicité supérieur, bien sûr, dans les moments juste avant la crise. Et les GSE, il faut garder en tête aussi qu'ils ont toujours eu un rôle aux États-Unis social. Ce qui est assez paradoxal quand on parle de l'économie américaine et quand on commence à parler de social, c'est qu'on a deux mandatures particulières. On a la mandature donc de Bush et la mandature donc de Clinton, qui se sont chacun mis finalement à avoir des objectifs de 50 à 70% de propriétaires aux États-Unis. Donc de plus en plus, les crédits qui étaient éligibles pour les GSE avaient pour objectif d'aider à l'accessibilité en fait à la propriété pour les ménages américains, comme l'a dit mon collègue, justement des ménages en règle générale modeste ou issu de minorité.
Alors, on le comprend, Pierre-Nicolas Réau, ces Government Sponsored Enterprises, ces fameux GSE, émergent donc aux États-Unis. Il y en a deux, on les a mentionnés très rapidement, mais il y a la Federal National Mortgage Association, créée en 1938, puis la Federal Home Loan Mortgage Corporation, créée en 1970, désignée sous leur petit nom de Fannie Mae et Freddie Mac. Ce sont deux institutions qu'évoquait justement George Bush. On évoquait la dimension sociale, mais George Bush les évoquait en 2002.
De plus en plus de personnes dans notre pays sont propriétaires de leur logement. Aujourd'hui, deux tiers des Américains sont propriétaires de leur logement. Pourtant, nous avons un problème ici en Amérique, car moins de la moitié des Hispaniques et de la moitié des Afro-Américains sont propriétaires de leur logement. C'est ce que l'on appelle le fossé de la propriété. C'est un fossé que nous devons travailler à combler ensemble. D'ici la fin de la décennie, nous augmenterons le nombre de propriétaires issus des minorités d'au moins 5,5 millions de familles. Et bien sûr, l'un des principaux obstacles à l'accession à la propriété des minorités est le financement de Fannie Mae et Freddie Mac. Ils se sont engagés à fournir plus d'argent aux prêteurs pour contribuer à combler le manque de capitaux disponibles pour les acheteurs issus des minorités. Freddie Mac a récemment lancé 25 initiatives visant à éliminer les freins d'accès à la propriété et à créer de meilleures opportunités. L'un des programmes est conçu pour aider les familles méritantes qui ont de mauvais antécédents en matière de crédit à se qualifier pour des prêts à l'accession à la propriété. Un premier achat n'est pas forcément l'achat d'une maison minable. Si on y met du sien, les acheteurs d'une première maison, les acheteurs à faible revenu, peuvent avoir une aussi belle maison que n'importe qui d'autre.
Alors nous l'avons dit, les GSE, les Government Sponsored Enterprises, sont créées par le gouvernement dans un premier temps. Elles sont également financées par le gouvernement fédéral américain aussi dans un premier temps. Nous avons déjà évoqué l'idée qu'elles soient privatisées ensuite au début des années 80. Mais Samuel Ligonnière, ce rôle de l'État est intéressant. On a parlé d'une forme de délégation du rôle des banques à travers la titrisation. On pourrait se dire que l'État aussi, quelque part, délègue son rôle en mobilisant la titrisation comme un outil de relance par l'emprunt et donc la consommation et l'investissement ou l'accès à la propriété dans le cas américain, il y a une forme aussi de délégation de pouvoir public, on pourrait le voir comme ça.
Alors, vous avez déjà peut-être plutôt une forme de lâcheté politique. En effet, il est beaucoup plus simple pour un gouvernement de vouloir libéraliser le crédit, de démocratiser le crédit, et là, même sur votre extrait, on dit bien, pour même les ménages avec un mauvais antécédent. C'est-à-dire que même pour les ménages qui ont un mauvais historique, même pour les ménages qui n'ont pas remboursé des crédits, on leur donnerait quand même le droit à cette propriété immobilière. Donc, ça nie complètement, en fait, le rôle de gestionnaire de risque des banques qui doivent justement dire si oui ou non, c'est une bonne ou mauvaise chose d'avoir un prêt. Donc, il y a un peu cet aspect-là où, en termes de courage politique, il est beaucoup plus aisé de faire de la dérégulation financière, de la libération financière, que de vouloir réguler ou déréguler un marché du travail, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment qu'il y a quand même cette garantie implicite, ou plus ou moins explicite, de la part de l'État. Donc, on fait du social. La titrisation devient social par rapport également aux objectifs politiques. Parce que la crise de 2008, c'est la faute à la titrisation, mais c'est pas juste la faute à la titrisation. On a tendance à associer crise de 2008 à la titrisation, mais c'est aussi le cocktail gagnant, c'est titrisation et subprime. Subprime, c'est le subprime, c'est le marché secondaire de l'immobilier américain, sous-entendu pour les pauvres et les minorités. Et donc, c'est ce développement extrêmement élevé du subprime, ici, qui fait qu'on a des ménages sans apport, avec un mauvais historique ou sans historique de prêt, avec un taux variable. Donc, le cocktail explosif de 2008, c'est un petit peu facile de juste le rejeter sur la titrisation. C'est surtout qu'est-ce qu'il y avait derrière la titrisation, et c'était notamment le fait que ce soit du subprime.
On le comprend, c'est toute la notion du contrôle aussi qui émerge là, aussi avec celle de la titrisation, dont les dérives sont apparues, on le disait, sous la lumière assez crue de la crise de 2007-2008. On en parle juste après Dead Man Walking de David Bowie, car oui, il y a un lien entre Bowie et la titrisation. On vous explique tout dans quelques instants. Dead Man Walking sur France Culture, un titre issu de l'album Earthling sorti en 1997, année où David Bowie décide d'émettre des obligations à 10 ans à partir de son œuvre. Ce sont les fameux Bowie Bonds, une opération qui lui vaut d'être qualifié de pionnier de la finance. Samuel Ligonnière, il faut peut-être là nous expliquer, parce qu'on a beaucoup parlé des banques, d'acteurs très institutionnels, en adossant des instruments financiers à ses œuvres et donc en créant la possibilité de disposer de liquidités immédiatement. On a pu dire de Bowie qu'il avait pratiqué la titrisation. Il n'est pas le seul. En 2014, Variety annonçait la titrisation à hauteur de 250 millions de dollars de son catalogue de quelques 700 films pour soutenir son secteur de la télévision et du film. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il n'y a pas que les acteurs institutionnels qu'on a mentionnés jusqu'ici qui peuvent pratiquer cette titrisation ? C'est un peu de la même façon que certaines entreprises décident d'émettre des actions, des obligations, elles peuvent recourir à la titrisation.
Alors, je vois que j'ai la question la plus simple de l'heure. Pour vous répondre, en fait, David Bowie, donc il a un portefeuille d'actifs. Il a un portefeuille d'actifs, il a une rente par rapport à toute sa carrière. Et donc, on peut le considérer comme la monétisation d'un flux futur, que vous allez toucher des royalties tous les mois, tous les ans, et donc vous allez toucher de l'intérêt via ces royalties. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait faire un lien avec la titrisation. C'est-à-dire qu'en fait, on se base sur son portefeuille d'actifs, et derrière, donc c'est une rente en fait, une rente, et derrière cette rente, eh bien, on la monétise en permettant à David Bowie d'avoir immédiatement cet argent, d'avoir immédiatement ses liquidités. Décidément, on revient toujours sur la notion de liquidité. Donc là, David Bowie récupère ses liquidités, et en échange, de l'autre côté, bah, ceux qui ont acheté ses bonds reçoivent ses flux futurs. Ces flux monétaires futurs.
Et c'est ainsi que David Bowie est resté dans l'histoire de la finance de façon relativement surprenante. Et j'en profite pour rappeler, Samuel Ligonnière, que vous êtes professeur associé à l'Université d'Evry-Paris-Saclay, responsable du Master Finance au sein de cette même université. Alors si la pratique de la titrisation a ses avantages, on les a bien compris, elle est loin d'être sans risque. Et c'est ce qu'a montré la crise de 2007-2008, auquel le mot de la titrisation auquel nous consacrons aujourd'hui cette émission dans Entendez-vous l'écho est irrémédiablement attaché. C'est ce qu'expliquait l'économiste Daniel Cohen le 31 mars 2008.
Moi-même, quand la crise des subprimes a commencé, c'est-à-dire les subprimes, c'est les crédits accordés aux segments les plus vulnérables de la population américaine, c'est-à-dire les gens qui, a priori, en général, ne peuvent pas s'endetter pour acheter leur logement. Cette crise des subprimes, au départ, a fait penser, comme vous le dites très justement, qu'on avait quand même exagéré d'accorder des crédits sans regarder qui les avait reçus. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'une chose qui paraissait très bonne à l'époque, qui est la mutualisation des risques. Je fais un crédit à quelqu'un, mais je ne suis pas seul à porter ce risque. Je vais titriser, comme on dit, c'est-à-dire couper en morceaux ce crédit et le donner à plein d'autres gens. On pensait au départ que c'était une idée géniale parce que ça voulait dire que justement le risque de défaut était porté par toute la communauté financière internationale et que c'était la meilleure façon d'éviter le risque systémique où un gros créancier se retrouve en faillite parce que son interlocuteur, le débiteur, ferait faillite. On s'est rendu compte d'une chose tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque je sais que moi, intermédiaire financier, je fais un crédit à quelqu'un, mais que ce crédit, je ne le garderai pas, je le distribuerai à d'autres personnes, alors je n'ai plus rien à faire de la question de savoir si la personne à qui j'ai fait ce crédit est solvable ou pas. Et donc, on s'est rendu compte que cette titrisation qui paraissait le sommet de la finance internationale, je morcelle les risques, etc., en son cœur, en fait, s'appuyait sur le pire des péchés, c'est-à-dire de ne plus responsabiliser celui qui avait fait ce crédit au départ.
Pierre-Nicolas Réau, nous l'avons dit, la crise de 2007 qui advient aux États-Unis est aussi, voire surtout, voire avant tout, une crise immobilière et peut-être moins le fait de la titrisation, c'est ce que nous disait Samuel Ligonnière. Mais moi, j'ai une question. Dans quelle mesure c'est justement la titrisation qui a provoqué un mouvement, finalement, d'homogénéisation de, voilà, il y a eu l'impulsion, certes, de Bush, il y a eu quelque chose de très politique, finalement, cette incitation à contracter des prêts immobiliers. Mais dans quelle mesure, finalement, la titrisation, ça commode difficilement en fait d'une trop grande diversification et qu'il y a eu il y a eu à la fois ce côté de on ne savait pas très bien qui contractait ses prêts, il n'y a pas eu de contrôle vraiment très rigoureux de ce côté-là, mais en plus il y a eu beaucoup trop de ces prêts immobiliers dans les produits titrisés, dans la construction des portefeuilles.
C'est un peu un principe de course en avant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les produits titrisés se vendent bien, il faut en produire plus et c'est assez simple. Si on prend un adage qui est simple, on prête de l'argent aux gens qui ont les moyens de rembourser. Une fois qu'on a servi tous les bons emprunteurs, à un moment donné, comme ils l'ont fait finalement quand on parlait des GSE, plus on va dégrader les conditions auxquelles on va être d'accord pour prêter de l'argent à quelqu'un, plus au bout d'un moment, on va se retrouver uniquement avec des profils auxquels on n'aurait pas forcément prêté. Donc c'est l'emballement un petit peu aussi de la capacité à revendre ces produits-là qui entraîne une dégradation de l'autre côté, notamment des conditions d'octroi de crédit. Et il faut quand même se remettre en perspective, c'est-à-dire que quand on fait des crédits à travers tous les États-Unis, c'est une zone géographique qui est très grande et très décorrélée d'un point de vue immobilier. Une crise immobilière généralisée aux États-Unis, ça n'avait jamais existé. Donc d'un seul coup, que tout le marché immobilier américain se mette à souffrir d'un seul coup à cause de cet emballement, notamment soutenu, comme vous l'avez rappelé, hein, par le fait que comme on pouvait titriser les créances, on pouvait faire encore plus de crédits, et que finalement, la demande pour les achats de biens immobiliers explosait. L'immobilier, c'est un stock qui est très tendu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des maisons en deux semaines. Donc plus on va faire de crédit, plus des gens vont vouloir en acheter, plus il y aura de concurrence pour les acheter, et ça entraîne une bulle immobilière.
Samuel Ligonnière, je reviens à ma question sur cette idée de est-ce que véritablement la titrisation en tant que mécanisme provoque, en tout cas génère une tendance à l'homogénéisation? Est-ce que le problème qui s'est posé avec la crise de 2007-2008 a été celui de la qualité des prêts contractés ou celui de la quantité finalement de ces prêts fourrés, on va dire, dans les produits titrisés?
Quand on regarde la titrisation aux États-Unis, quand on compare en 1996 à 2007, il y a eu x3. Le volume de titrisation, ça a été x3, jusqu'à 13 500 milliards de dollars de volume titrisé. Donc, on a un problème quantitatif, évidemment. Et derrière, il y a tout l'enjeu de qu'est-ce qui est en termes de qualité derrière, à quel point on sait ce qu'il y a dans ces milliers de prêts, etc. Dans ces milliers de prêts qu'on donne dans chaque produit titrisé, eh bien, on est censé respecter la vision de la banque, à la base, qui a quand même fourni le prêt initialement, qui joue, entre guillemets, sa réputation. Et on s'est rendu compte dans les études qu'au final, il y avait des écarts de taux d'intérêt qui étaient délirants d'une ville à une autre, d'un ménage à un autre, pour énormément d'irrationalité derrière. Mais il y avait surtout le fait qu'on avait confiance dans le système, on avait confiance dans les agences de notation qui notaient quasiment tous les produits titrisés AAA, et on avait confiance dans l'État, on avait confiance dans la Banque Centrale, la Fed, on avait confiance dans la capacité du système financier et des institutions publiques à sauver le système au cas où il y a un problème. Donc, d'une manière générale, c'est aussi une fuite en avant vis-à-vis du régulateur qui, s'il y a un problème, au pire, c'est pour le régulateur et une personne ne voyait cette crise arriver aussi massive.
Pierre-Nicolas Réau, c'est vraiment par excès de confiance finalement qu'on a tous foncé dans le mur, ou c'est parce que les signaux qui auraient dû alerter n'existaient tout simplement pas, ou en tout cas ont décidé d'être aveugles, et je pense là évidemment aux agences de notation.
En grande partie qui ont décidé d'être aveugles. Pour compléter sur les crédits, il faut garder en tête que les crédits subprimes, en grande partie aussi, ont été accordés par des entités qui n'étaient pas des banques aux États-Unis,
oui.
Par des agences qui étaient spécialisées là-dedans et qui avaient encore moins d'incitation finalement à faire attention à qui elles prêtaient parce qu'elles savaient qu'elles allaient revendre les crédits derrière. Mais les agences de notation, en fait, à un moment donné, oui, on a pris finalement les notes des agences de notation pour ce qu'elles ne sont pas. Il faut faire un rappel, c'est que la note d'une agence de notation, elle est protégée par la liberté de la presse aux États-Unis. Et en fait, finalement, c'est un avis qui est émis, mais qui n'engage pas la responsabilité de l'agence qui l'émet. Ça engage son capital réputation, mais ça n'engage pas sa responsabilité. Et les mises à jour sont relativement peu fréquentes, finalement.
Oui, ce qui interroge quand même sur le fait qu'on ait tous fait, enfin, que les acteurs financiers aient fait confiance à des acteurs privés que sont les agences de notation.
Exactement, c'était une grande ouverture à utiliser finalement un organisme certificateur externe, l'agence de notation, et à lui faire confiance sur un cœur de métier finalement qui n'était pas tellement le sien. Pire que ça, les agences de notation étaient régulièrement à la conception des produits titrisés. Normalement, l'agence de notation n'est pas censée particulièrement dévoiler finalement son modèle d'évaluation. Et en participant, en donnant plus ou moins des indications sur comment aider à construire les produits, ça permet d'obtenir de très bonnes notes en faisant des aménagements assez mineurs finalement sur l'organisation des crédits qu'on utilise. Donc, dans l'idée, elles ont même été pourvoyeuses de solutions pour la titrisation. Donc, quand on est pourvoyeur et qu'on est rémunéré pour la notation qu'on met sur un produit, on est forcément incité à faciliter.
Alors, justement, la façon dont ces produits ont été conçus a été largement analysée et puis aussi mise en scène. Il y a un film en particulier qui est beaucoup revenu sur cette question. C'est The Big Short d'Adam McKay, sorti en 2011 et qui explique à peu près tout.
Structure de créance hypothécaire. C'est important que ce soit clair parce que c'est ce qui a fait d'une crise de l'immobilier une cata économique nationale. Je laisse le célèbre chef Anthony Bourdin vous l'expliquer.
Bon, je suis un chef un dimanche après-midi. Je fais la carte d'un grand restaurant. J'ai commandé mes poissons vendredi, ce sont les obligations que Michael Burry a shortées. Mais j'ai plusieurs invendus au final. Pourquoi ? Je sais pas, peut-être qu'on a annoncé que le flétan a l'intelligence d'un dauphin. Enfin bon. Du coup, je fais quoi ? Ces poissons qui restent, qui correspondent au triple B de l'obligation, j'en assume la perte et je les jette ? Jamais. En bon chef rusé et sans scrupules que je suis, quel que soit le niveau merdique des obligations invendues, je les mets dans un ragoût de poisson. Vu ? C'est plus de l'invendu. C'est une nouveauté. Et le plus beau, c'est qu'ils mangent du flétan qu'il y a 3 jours. C'est ça, un CDO.
Pierre-Nicolas Réau, l'extrait mentionne les CDO, les Collateralized Debt Obligations, c'est-à-dire un produit financier qui regroupe finalement les tranches plus risquées. Pourquoi donc avoir voulu faire ça ?
Pour refaire exactement la même chose que fait sur la titrisation initiale. Tout à l'heure, on en a parlé très rapidement, c'est que différents titres sont émis avec différents couples rendement risque. C'est-à-dire que plus je veux de rémunération, plus je vais accepter une part du risque importante. C'est assez facile de vendre les produits les plus sûrs. Si je suis certain de ne supporter que 3% des pertes des titres qui sont concernés, je vais assez facilement l'acheter, ce sera très bien noté assez facilement. Par contre, plus on descend dans la hiérarchie et plus on descend vers le risque, plus on se retrouve avec des produits qui peuvent faire peur, parce qu'ils sont de plus en plus spéculatifs. L'idée du CDO, c'est de se dire, un petit peu comme l'hypothèse qui avait été faite qu'il était impossible d'avoir une crise immobilière sur l'ensemble des États-Unis, toutes ces mauvaises tranches-là, si on les regroupe ensemble, il y a très peu de chances qu'elle fasse défaut en même temps. Donc, on prend les plus mauvaises tranches, on refait un produit titrisé avec ça, et on re-hiérarchise des titres. Ce qui veut dire qu'on va réussir à émettre à partir de mauvaises tranches des titres très bien notés parce qu'ils ne correspondent qu'à les deux ou trois derniers pourcentages de pertes possibles. Donc le CDO, c'est la main de Midas. On prend quelque chose qui est mauvais, on re-hiérarchise et on en sort de l'or.
Et on comprend.
Et ça, ça a pu être fait. Il y a eu ce qu'on appelait des CDO, mais il y a eu des CDO de CDO et des CDO de CDO de CDO. Et je m'arrête là parce que ça serait un petit peu une litanie. Mais en fait, à un moment donné, on a cru que on pouvait créer artificiellement quelque part de la qualité à chaque fois qu'on recommençait un processus de titrisation à la chaîne.
Et on comprend là donc comment le système s'est un peu retourné aussi contre lui-même. Très concrètement, Samuel Ligonnière, quand tout s'écroule, quand on se rend compte que tout est trop imbriqué, que la crise devient systémique, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, qui se retourne vers qui ? Et en fait, derrière ma question, il y a une question plus fondamentale encore. On a beaucoup dit que la titrisation était une façon pour les banques de déléguer le risque, mais dans quelle mesure se désengage-t-elle vraiment ? Est-ce que les acteurs financiers qui rachètent ces actifs titrisés exigent quand même une part d'engagement vis-à-vis des banques. Est-ce qu'elles restent quand même quelque part un peu responsables aussi de ces titres-là ?
Alors, une réponse courte et une réponse longue. Une réponse courte, avant les régulations de 2010, de 2014, 2017, il n'y avait aucune obligation pour les institutions de garder au moins une partie de ce qu'ils titrisent. Une réponse longue, vous avez donc la titrisation, vous avez le subprime, vous avez les CDO Square et tout ça. Et donc derrière, quand on a commencé à voir que les subprimes, dès 2005-2006, il y avait des défauts en cascade, que les flux de remboursement allaient s'amenuiser, et bien derrière, les investisseurs ont commencé à prendre peur, ils se sont bien rendu compte que ce qu'il y avait derrière dans les CDO, ou plus simplement dans ces MBS, ça commençait à perdre de la valeur, plus personne n'en voulait, et de fait, vous avez des banques qui n'en avait plus. Mais vous avez des banques telles que Lehman Brothers qui en avaient énormément. Et donc, c'est ça qui a précipité la crise derrière. C'est que vous avez des banques sur lesquelles il était connu qu'ils avaient énormément de CDO. Mais d'autre côté, vous avez d'autres banques qui en avaient aussi, mais on ne savait pas la qualité dans leur bilan. On ne savait pas la qualité des CDO, on ne savait pas ce qu'ils avaient. Et donc, c'est pour ça que la grande crise que nous avons connue, elle est essentiellement liée au fait que le marché interbancaire s'est grippé. Plus aucune banque n'acceptait de se prêter de l'argent. Tout le monde avait peur et en même temps, vous avez la Fed qui décide de ne pas sauver telle ou telle institution financière. Et donc, ça a précipité cet effet de panique et cette crise financière.
Vous avez parlé des réglementations qui ont été mises en place après la crise, une fois qu'on a pris conscience de l'ampleur du phénomène. C'est notamment à ce moment-là qu'est conclu l'accord dit Bâle III en 2010 qui oblige les banques, entre autres, à garder moins de 5% des actifs titrisés dans leur bilan. Samuel Ligonnière, qu'est-ce que c'est censé garantir que les banques ne prennent pas trop de risques? C'est ça qui était en jeu?
Par rapport à l'extrait, c'est-à-dire que par rapport à l'extrait, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est vous êtes une institution qui vend que des prêts immobiliers pour les plus pauvres et vous savez pertinemment qu'il y a un énorme risque de défaut. Et bien là, sur les 100 produits que vous vendez, sur les 100 prêts pourris entre guillemets que vous vendez, il y en a 5 que vous devez garder pour vous. Ou en tout cas 5 dont vous avez, manière juridique, dont vous avez la responsabilité. Donc de fait, vous savez qu'il faut quand même faire un minimum attention parce que dans toute la réglementation, que ce soit notamment au niveau européen ou américain, maintenant vous devez absolument, les sponsors, l'initiateur de cette titrisation doit garder à minima 5%. Donc de fait, ça vous pousse à faire un petit peu attention à ce que vous vendez, mais c'est vraiment une partie de la régulation pour le coup. Le but, c'est vraiment de mettre de l'harmonisation dans la titrisation pour que ce soit le plus... Comme je disais, les STS, c'est vraiment que ce soit simple, transparent et standardisé.
Donc cette fameuse règle qui a été mise en place en 2019, il y a les cadres prudentiels pour éviter que les erreurs ne se reproduisent, mais il y a aussi ce qui a été mis en place dans l'immédiat après-crise pour absorber les dégâts causés. Ce sont les États et les banques centrales qui interviennent alors. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de désengagement général permis par la titrisation. Or, on assiste là à un retour en force des acteurs publics. Pierre-Nicolas Réau, on pourrait presque se dire que c'est un aveu d'échec pour l'efficacité supposée de la titrisation.
Oui, et puis surtout face à la grande panique qui était générée. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué tout ce qui a commencé à mal tourner. Mais c'est surtout en fait qu'à un moment donné, le marché est totalement illiquide. C'est-à-dire que même les bons produits titrisés sont absolument inaudibles. C'est-à-dire qu'on a peur, c'est une panique généralisée et plus personne ne veut toucher ce qui porte le nom de titrisation. Donc là, il était nécessaire effectivement pour les instances publiques d'intervenir et notamment donc, tout ce qui va être banque centrale. Pour sortir ces actifs-là du marché et les échanger contre des actifs en lesquels on a encore confiance, pour pouvoir relancer un peu de liquidité. C'est-à-dire que là, globalement, il faut remettre de l'essence dans le moteur. Il faut remettre de l'essence dans le moteur pour que ça continue à tourner, pour que ça continue à circuler. Et si ça forme des caillots, il faut enlever les caillots responsables et faire un swap avec quelque chose qui soit beaucoup plus acceptable.
Vous l'avez dit, plus personne ne veut toucher à ce qui porte le nom de titrisation. Ça, c'était jusqu'à récemment, puisque je le disais hier, a été mis sur la table par la commissaire européenne aux services financiers, Maria-Louise Albuquerque, une ambition nouvelle aussi de relancer ce marché de la titrisation. La titrisation est un instrument utile pour générer des financements supplémentaires en faveur des ménages et des entreprises. Voilà ce qu'a expliqué hier la commissaire européenne aux services financiers. Mais alors, une question se pose, Samuel Ligonnière. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines banques refusent d'accorder des prêts faute de liquidités? Est-ce que c'est ça leur problème principal? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qui garantit, est-ce qu'il existe des mécanismes de garantie que l'espace libéré sur le bilan des banques soit vraiment utilisé pour des investissements productifs?
Alors, sur les problèmes de liquidité, évidemment, si vous entendez les grandes banques européennes ou américaines, elles vont jamais vous dire que tout va bien. Mais il y a quand même cet aspect par rapport au taux d'intérêt. Au taux d'intérêt américain, au taux d'intérêt européen. Donc les taux d'intérêt ne sont plus du tout les mêmes. On n'est plus du tout dans la décennie 2010 où on avait des taux d'intérêt qui étaient très très faibles. Là, on commence à revenir vers des taux que les économistes jugent un peu plus crédibles, jugent un peu plus naturels par rapport à la situation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à cette histoire de ratio d'endettement et des capacités pour les banques, ça va leur permettre... La titrisation, en fait, c'est un outil supplémentaire. C'est un outil supplémentaire par rapport à cela. Et donc, c'est juste que ça va... et ça va même être mis dans la réglementation. Dans la réglementation, vous avez effectivement l'endettement et le fait de titriser. C'est plus ou moins pondéré ici dans vos ratios prudentiels. Ça existe dans la réglementation Bâle 3. Donc, on essaye de faire des choses avec la réglementation. Ils essayent de libérer de l'espace aussi. Notamment, la Commission européenne essaye de faire de l'espace pour la titrisation parce que l'Europe a un problème face aux États-Unis. Et donc c'est pour cela qu'on essaye, par un peu tout azimut, de relancer le marché financier européen, notamment par la titrisation.
Par la titrisation, mais en fait quand on dit relancer la titrisation, c'est tout simplement réduire aussi les exigences en termes de régulation, de réglementation. C'est ce qui a été dit officiellement, l'objectif est de réduire d'au moins 35% le nombre d'informations à fournir avant toute opération de titrisation. Pierre-Nicolas Réaux, finalement on se rend compte que le problème... Bon, après, à supposer que ce ne soit pas la titrisation en elle-même, c'est tout simplement l'ensemble des règles qui sont censées l'encadrer.
Même avant ça, quand la volonté de relance de la titrisation, c'est un effet de rattrapage des États-Unis. C'est-à-dire qu'avant d'attaquer ça, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, les encours de titrisation aux États-Unis, on est à peu près à 10 500 milliards de dollars. Voilà, il faut s'imaginer le chiffre, il faut se le représenter mentalement, ça fait quand même beaucoup de zéros. En Europe, on est plutôt aux alentours des 400 milliards. Donc on va avoir peut-être un peu plus, mais en règle générale, on a un rapport entre 8 et 10 fois supérieur aux États-Unis. Et globalement, la réglementation en Europe reste relativement punitive par rapport à la titrisation, par rapport à ce qu'elle est aux États-Unis.
Samuel Ligonnière, c'est intéressant cette comparaison entre ce que représente le marché de la titrisation en Europe, au sein de l'Union européenne, et le marché américain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que le marché européen est beaucoup plus développé en la matière, que certaines banques américaines puissent se saisir de l'opportunité ainsi créée, de cette relance du marché de la titrisation en Europe, parce qu'elles ont les compétences, parce qu'elles ont les ressources nécessaires pour le faire, le poids financier aussi, et que les banques européenne, française, le soit beaucoup moins et que ça pose des problèmes, entre autres, de souveraineté. Que, en fait, finalement, cette relance-là du marché de la titrisation soit un boulevard pour les banques américaines.
Alors, le problème étant que le marché américain et le marché européen, comme mon collègue vous l'a dit, c'est pas du tout le même niveau, le même montant. Et oui. Le deuxième point, c'est surtout qu'en Europe, c'est très fragmenté. Les marchés financiers sont très fragmentés. La transmission de la politique monétaire, donc si on décide, Christine Lagarde fait une décision de politique monétaire, ça ne va pas jouer de la même manière en Espagne, en Italie, en France, etc. Sur les marchés financiers, que ce soit sur les marchés d'actions, d'obligations ou encore de la titrisation, il y a chacun un peu ses propres pratiques. Donc en fait, c'est pas forcément alors ça peut être un boulevard effectivement pour les concurrents américains si on arrive à unifier cet élément-là, si on arrive à unifier ces marchés de capitaux. Mais le problème, plus encore que ce soit une banque française ou une banque américaine, pour moi, l'essentiel, c'est plutôt de est-ce que la titrisation est un outil favorable ou non au développement du marché financier européen, parce que...
suffisamment ciblé, donc.
Suffisamment ciblé, et surtout, est-ce que c'est le problème ou la solution?
J'en reviens là à ma question de savoir qu'est-ce qui garantit que les lignes ainsi libérées vont aller dans le sens d'un investissement productif.
Le problème, il est que vous avez effectivement une régulation punitive et donc la question, c'est toujours de qu'est-ce qu'on fait par rapport à la régulation? Est-ce qu'on doit être dans le durcissement ou au contraire, est-ce qu'on doit être dans la libération derrière ? Il est très facile a posteriori de dire que c'était stupide d'avoir ouvert les subprimes, d'avoir fait de la titrisation. C'est très facile a posteriori de dire comme quoi on est toujours dans un excès ou dans l'autre. C'est très facile de le faire a posteriori. Le problème, il est qu'on a un problème aujourd'hui en France de capacité à avoir des financements, que ce soit pour le vert, pour nos entreprises. Et la question, c'est est-ce que la titrisation permet de l'aider ou non ?
Et nous l'avons vu, ce n'est pas nécessairement un automatisme finalement que ces prêts-là aillent en direction notamment des PME, TPE, qui sont aussi dans le viseur de la Commission européenne. Ce sont des questions que nous aurons sans doute l'occasion de reposer. Puis je précise aussi que tout le monde ne va pas dans ce sens-là. En 2023, il n'y a pas si longtemps que cela, on a craint une crise financière d'ampleur avec l'effondrement du Crédit Suisse. Le 6 juin dernier, le Conseil fédéral suisse a annoncé vouloir imposer jusqu'à 26 milliards de dollars d'exigences de fonds propres supplémentaires à UBS pour lui éviter de prendre trop de place. On voit donc que la question de la régulation se pose un peu partout. Un grand merci à tous les deux, Pierre-Nicolas Réau et Samuel Ligonnière, d'avoir participé à cette émission.